Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on scrute et on tente d'améliorer tous les aspects de notre vie quotidienne jusqu'à midi. Et ce matin, Mélanie, on va s'intéresser à quoi ?
Eh bien aujourd'hui, un sujet un peu intime, en tout cas très personnel, même si on en parle de plus en plus dans la société. Ce matin, on va se questionner autour de ce sujet, les poils. Alors on aime ou on n'aime pas ? Pour réfléchir à tous les aspects autour de ce thème, on a prévu plusieurs expertes même aujourd'hui. D'abord Virginie Giraud, elle est docteure en histoire. Le docteur Laurence Netter, dermatologue à Paris, sera également avec nous. Et puis Adeline Rapon sera des nôtres. Elle est photographe et co-autrice du livre Ébouriffante aux éditions Le Nouvel Attila.
Et ensuite à 11h45, comme tous les jours, ce sera notre séquence tendance avec notre duo de chroniqueurs. Avec Inès Courdourly, si vous faites partie de ces gens qui ont les chocottes, voire une vraie phobie de l'avion, eh bien on va vous dire désormais tout sur les simulateurs de vol. Il y a des stages désormais partout en France dans lesquels on peut vous aider à prendre votre envol en toute sérénité. Et enfin, on va terminer avec la chronique déco de Vincent Busset. Aujourd'hui, il nous propose sa sélection de décorations murales. Quels sont les types de cadres, les papiers peints, les derniers objets en relief à la mode sur nos murs ? Il va tout nous expliquer. Bien fait pour vous, c'est parti.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good, celle qui est là tous les jours pour vous rendre la vie plus facile ou en tout cas pour vous aider à mieux comprendre ce qui nous entoure. Et donc notre question du jour sera la suivante ce vendredi, les poils, on aime ou on n'aime pas ?
Alors bien sûr, chacun et chacune est libre d'en penser ce qu'il veut, mais ces derniers temps, derrière l'interrogation anodine autour du poil, en avoir ou pas, se joue une question autrement plus complexe sur notre rapport au corps, la féminité ou à la sexualité. On va détailler tout ça dans quelques instants avec nos invités. Mais pour commencer, on va écouter ce qu'en pense notre cher Clément Lanoux et les Français qu'il a interrogés sur ce sujet. Bonjour,
bonjour
Clément.
Bonjour tout le monde. J'attendais une transition de dingue. Je me suis le plus poilu de l'émission. Il en a sur les visages.
J'ai pas trouvé.
Voilà, je suis assez poilu moi, mais pour moi, c'est de l'entretien. C'est comme un jardin. Il faut l'entretenir. On va en parler tout à l'heure.
Du poil roux, bien.
J'ai
bien
toutes
velu,
les couleurs. Moi, regardez,
doux,
je suis blond d'un côté, châtain de l'autre. Il y a des poils blancs. Là, je suis ce qu'on appelle le caméléon du poil. Voilà. Je suis parti à la rencontre des Français et j'ai abordé ce sujet, effectivement. On est quelques semaines après les élections et tous les candidats en pleine campagne ont complètement omis ce sujet pour ou contre les poils. Alors du coup, j'ai posé la question aux Français que j'ai croisés dans la rue.
Plutôt contre, je trouve pas ça très esthétique. Après, ça dépend où, mais les poils de barbe, ça me gêne pas. Sur le corps, un peu moins.
Je suis contre les poils. Je trouve ça moche.
Je les aime pas trop. Après, je suis pour le mouvement qui dit qu'on doit rester nature.
Donc, globalement, il y avait du contre. Après, il y a effectivement ceux qui sont complètement pour. La Fédération Française de Poils, la FFP, que j'ai croisé aussi.
Je suis pour. Parce que c'est quand même un héritage de nos ancêtres.
Donc voilà, ça pourrait marcher quasiment avec n'importe quoi.
Ça peut marcher, ouais.
C'est un héritage de nos ancêtres.
Voilà, je peux poser n'importe quelle question, je rediffuse les mêmes sons. C'est pas mal. Non, il y a quand même un vrai débat autour de ça et des personnes très mitigées.
Moi, je suis mitigée. J'ai des périodes d'hibernation. C'est-à-dire qu'en hiver, full poil, full yeti. Et en été, bah, c'est plutôt une question de chaleur, en fait. Je me dis, en fait, les poils, c'est censé te protéger du froid. Du coup, bah, techniquement, tu fais ça naturellement. T'as les poils en hiver, l'été, tu les enlèves. C'est pas une question de berg des poils. C'est naturel. Je suis revenue à l'état animal.
Donc, oui, côté beauté, c'est pas très beau. Après, je vais pas dire contre. Ça dépend des endroits. Parce qu'il y a des endroits, il faut les garder pour la santé.
Alors, il faut les garder pour la santé. On va en parler dans un instant. À quoi servent les poils ? Est-ce que c'est juste esthétique de dire waouh, quel joli poil, on dit ça pour un animal. Pour nous, je ne sais pas. Alors, j'ai demandé aux Français aussi, est-ce qu'ils sont au courant de l'utilité ? Pourquoi avons-nous des poils ?
Alors, je pense que ça sert à protéger notre corps de certaines attaques bactériennes ou environnementales. J'imagine que c'est à ça que ça sert au départ.
Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais en tout cas, ça protège. Ça peut protéger contre des allergies, ça peut protéger contre des petites particules invisibles. Ça évite que ça remonte un tout petit peu plus loin.
Bah, actuellement, pas grand-chose, mais fut un temps, ça servait quand même à se protéger du froid, mais maintenant qu'on a des habits, ça ne sert plus à grand-chose. À part pour la virilité chez les hommes, peut-être.
Alors, c'est une bonne question. Est-ce que la virilité, c'est ça, finalement ? On en est très loin. On fera sûrement une émission spéciale. Qu'est-ce que la virilité ? Pardon, évidemment, ce ne sont pas les poils.
On vous invitera.
Mais bah, j'espère bien. J'espère plein de choses à dire sur le sujet. Mais juste comme ça, si on parle que d'apparence, les hommes, vous les préférez avec ou sans les poils ?
Allez, on va dire des poils sur le torse, ça me convient. Mais alors, quand il en a partout dans le dos et tout, c'est très moche.
Entre les deux. Genre, entre Chewbacca et une petite fille qui n'a pas, qu'il n'y a pas de poils.
Plus il y a de poils, mieux c'est. Et non, vraiment, moi, un berbe, ça m'embête. On dirait qu'ils sont, ils sont petits, qu'ils n'ont jamais grandi. On dirait des enfants, c'est, ça, ça m'emmerde. Moi, les mecs, les ours, vraiment.
Bah, moi, c'est tout l'inverse. Je supporte pas le ours, genre les poils sur le torse qui dépassent de la chemise, horrible. Les poils dans le dos, jamais je touche. Donc, moi, c'est un berbe maximum. Ouais, s'il peut ressembler à un petit ado de 15 ans, ça me va. Vraiment.
Donc, voilà, conclusion, c'est comme tous les sujets en France, on se mettra jamais d'accord. Voilà.
Exactement, ça divise les poils. Merci beaucoup, Clément Lanoux. On va maintenant se tourner vers nos spécialistes du sujet. Je commence par vous, Virginie Giraud. Bonjour.
Bonjour, Julia.
Vous êtes docteur en histoire et auteur des ambitieuses 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister. Et c'est paru chez M6 Éditions. Avec nous également dans le studio, le docteur Laurence Netter. Bonjour.
Bonjour, Julia.
Je rappelle que vous êtes dermatologue à Paris. Et enfin, je présente aussi Adeline Rapon. Bienvenue, Adeline. Vous êtes photographe et co-autrice du livre Ébouriffante au pluriel aux éditions du Nouvel Attila. Alors Virginie, on va commencer avec vous. Historiquement, comment avez-vous, comment nous on a construit plutôt notre rapport aux poils au fil des siècles ? J'imagine qu'on ne voit pas nos poils de la même manière aujourd'hui par rapport aux années 50 et encore moins par rapport au Moyen-Âge.
Le poil, c'est une mode, comme tout. Il y a des moments où on aime en avoir, des moments où on n'aime pas en avoir dans l'histoire. Mais de manière globale, on commence à s'occuper du poil vraisemblablement dès lors qu'on s'est inventé des lames pour les enlever. Donc c'est une histoire qui doit remonter probablement à Homo sapiens, donc à ces hommes qui sont déjà nous, hein, mais qui n'ont pas encore l'écriture, qui sont encore nomades, qui chassent, qui font de la cueillette. Et dès lors qu'ils commencent à se parer le corps, eh bien, ils commencent certainement à enlever le poil. Mais on n'a pas de texte pour le prouver.
Ni de dessin ?
Si, on a des dessins de sexe féminin sans pilosité.
Ah.
Donc c'est pas inintéressant. Faites mieux de poser la question, du coup j'ai réfléchi en même temps. Et par contre, on sait dès lors que l'on a des textes pour les sociétés antiques que sont l'Égypte, la Grèce et Rome, qu'on va enlever le poil, surtout sur les femmes, mais pas que, hein, beaucoup les hommes aussi.
Donc Cléopâtre n'était pas poilue du tout.
Cléopâtre n'était vraisemblablement pas poilue du tout. Elle devait même pratiquer une forme d'épilation quasiment complète. Mais si on remonte un petit peu plus le temps, parce que Cléopâtre a dû garder ses cheveux, parce que vous savez que Cléopâtre est grecque, du moins d'origine grecque par son père Hominé. On sait que 1000 ans avant, les pharaons, les hommes, les femmes de l'Égypte antique, eux, allaient même jusqu'à se raser complètement les cheveux pour éviter d'avoir des poux et différentes petites bestioles qui viennent loger dans votre tête et porter plutôt des perruques. C'était plus hygiénique.
Docteur Laurence Netter, vous êtes dermatologue. Alors, les poils sont une partie intégrante de notre corps. Tout le monde sait à quoi ça ressemble, mais personne ne sait vraiment de quoi un poil est composé et à quoi il sert quand même. Parce qu'on a eu quelques esquisses de réponses dans le microcosme de Clément Lanoux. Mais...
Alors, le poil a une structure un petit peu complexe, mais pour qu'on comprenne assez facilement, il y a la partie renflée qui est au fond. Et qui est la partie germinative qui va fabriquer les cellules qui vont permettre à la tige pilaire de pousser. Et puis il y a la tige pilaire qui est la partie donc qui va immerger, qui est composée de 3 couches. Voilà. Annexé à ce poil, il y a un petit muscle qui se contracte et qui permet l'érection des poils. Il y a également la glande sébacée qui est dans le même coin qui va produire du gras. Et la principale
utilité du poil.
Utilité. Donc, j'oublie la kératine parce que c'est fait de kératine, ça c'est important, et puis d'acide aminé soufré. Alors, l'utilité du poil, on va, pour moi, c'est un petit peu un reliquat de notre vie préhistorique. Dans le temps, ça servait à se protéger du froid. L'air était coincé sous le poil. Et l'air est un très bon isolant, donc on se protège du froid. Aujourd'hui, on a d'autres façons de se protéger du froid.
On a des manteaux.
Oui, par exemple.
On a des manteaux.
Et des écharpes.
Oui, c'est un peu comme les cils. Et puis ça nous permet également de nous protéger des rayons UV, des bactéries, un petit peu comme les cils qui sont protecteurs. Mais c'est infime.
Adeline Rapon, vous avez coécrit sous forme de bande dessinée et l'histoire se déroule dans le futur. Vous parlez des poils. Racontez-nous brièvement de quoi s'agit-il ?
Alors c'est l'histoire de 3 coiffeuses, en fait c'est 3 personnages qui sont donc moi, ma co-autrice Émilie Glisson et aussi notre éditrice qui est Camille Ancel. Et donc on est 3 coiffeuses qui travaillons dans un salon donc dans le futur imaginé, où en fait l'épilation serait interdite. Et dans ce salon, en fait on n'éradique pas le poil mais on l'entretient et donc effectivement on vient pour se faire décolorer les aisselles, pour se faire coiffer les jambes, voilà c'est tout un travail comme ça.
ça. Et effectivement, c'est toute l'idée de, par l'absurde, analyser et peut-être aussi se questionner, en tout cas, sur notre rapport au poil et qu'est-ce que ça traduit, effectivement, dans notre rapport au corps, effectivement.
Bon, et vous, justement, Adeline, vous n'avez pas peur d'afficher vos poils sur Instagram. Quel était le but principal au départ de cette mise en avant du poil sur les réseaux sociaux?
Moi, j'ai un travail qui est assez féministe, qui est même très complètement féministe, de façon générale sur ma photographie, sur ma façon d'aborder les choses, d'aborder mes sujets, mes modèles également. Et en fait, le poil fait partie de toutes ces questions-là, parce qu'effectivement, de toute façon, on est sur le corps, le corps de la femme. Comment est-ce qu'on le traite? Comment est-ce qu'on se présente? Il y a la question de la minceur, il y a la question de des cheveux. Le poil vient de toute façon, donc c'est pas un détail, en fait. Ça fait vraiment partie d'un tout. Et pour moi, c'est important, en tout cas, avec la plateforme que je peux avoir, de normaliser ça, ou en tout cas de faire un petit peu de représentation d'une certaine façon.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on se pose cette question. Les poils, on les aime ou pas? Pour en parler, elles sont toujours à nos côtés. Virginie Giraud, docteur en histoire, le docteur Laurence Netter, dermatologue à Paris. Et puis Adeline Rapon, photographe et co-autrice du livre Ébouriffante aux éditions Le Nouvel Attila. Alors docteur Netter, en faire un peu de physiologie d'abord. Comment expliquer que certaines zones de notre corps ont des poils, d'autres non? Si je prends, la plante des pieds, la paume de la main, pourquoi il y a des endroits où il y en a et des endroits où il n'y en a pas?
Et les ongles, j'ai pas de poils aux ongles.
Non, c'est mort. Il n'y a pas d'explication. Il y a des chercheurs de Pennsylvanie, il y a quelques années, qui se sont rendus compte qu'il y avait des inhibiteurs naturels au niveau des paumes et des plantes. Et puis c'est un endroit où la peau est beaucoup plus épaisse. Et donc comme le poil, c'est une invagination, c'est un peu technique, de l'épiderme dans le derme, c'est un petit peu épais, ça explique qu'il n'y ait pas de poils. Mais il n'y a pas de raison physiologique...
Particulière,
absolument.
Bon, alors je vais arrêter de me poser la question pourquoi j'ai pas de poils aux ongles.
Virginie, mais alors... de temps en temps, un poil au milieu de la main. Ah bon, mais c'est pas le même sujet.
C'est pas le même sujet. Virginie, on n'y pense pas toujours, mais nos poils peuvent être aussi de formidables alliés pour la police, expliquez-nous.
Oui, effectivement, vous savez, quand on fait de l'archéologie, quand on étudie les sols, on fait des carottages, vous voyez, qui nous donnent des informations sur l'histoire du sol. Et bien, un cheveu ou un poil, c'est la même chose. Il va stocker au fil du temps une partie des choses que vous ingérez, et notamment les produits toxiques comme l'arsenic. Prenons un cas évident, Napoléon par exemple. Eh bien, on a fait des tests sur des mèches de cheveux de Napoléon à plusieurs moments de son existence jusqu'à sa mort, et on a trouvé des traces d'arsenic. Alors bien évidemment, certaines personnes se sont dit, mais voilà, on a la cause de la mort de Napoléon, il a été intoxiqué à l'arsenic, c'est un empoisonnement, les Anglais sans aucun doute. Mais des historiens très sérieux, comme Thierry Lenz, spécialiste de Napoléon, nous ont dit, non, pas du tout, il n'a pas été intoxiqué, il avait un ulcère, peut-être même un cancer de l'estomac. En revanche, il consommait de temps en temps un alcool qui contenait de l'arsenic et qui était un remontant qu'on donnait aux soldats au début du 19e siècle. Et ça a fait une petite intoxication sur le long terme qui explique la présence d'arsenic dans les cheveux.
Et ça, c'est grâce aux poils.
Exactement, les mèches de cheveux.
Adeline Rapon, ce désamour moderne des poils, on a entendu tout à l'heure chez Clément Lanoux, les gens disent non, les poils, c'est pas beau. Enfin, beaucoup disent ça, en tout cas. Vous pensez que c'est pas dû finalement à la place qu'on donne à nos poils, justement, dans les médias, au cinéma? C'est pas hyper glamour. Enfin, en tout cas, c'est pas associé à quelque chose de glamour.
Oui, effectivement, en fait, il y a aussi toute une histoire, en tout cas pour l'histoire récente, où le poil a été censuré, donc dans l'art classique notamment, en retirant les poils, en fait, on désérotise un corps. Et donc souvent, le corps de la femme est utilisé, notamment dans l'art du 19e siècle, pour la mettre... pour avoir quand même quelque chose de très érotique, comme on érotisait les corps morts de femmes de façon très lascive, etc. Mais en fait, cette censure-là, s'est perpétuée donc sur la photographie et également au cinéma. Donc le poil était vraiment synonyme de sexe évident. Et donc les actrices de cinéma s'épilaient. C'était les seuls à s'épiler, en tout cas dans le début du XXe siècle. Et après, en fait, avec la démocratisation du cinéma, au fur et à mesure, c'est devenu beaucoup plus normal de voir des femmes qui n'étaient pas poilues. Et donc, ça s'est perpétué. Puis on a le pommeau aussi également qui a été...
très influent là-dessus.
Aline, peut-on dire que la société a imposé les polices parce qu'il y a peut-être une responsabilité aussi des hommes, non ? Vous parlez notamment dans votre livre des réactions de certains de vos petits copains. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu par rapport à ça, vous ?
Oui, effectivement. Moi, c'est un de mes premiers rapports où j'ai un copain à l'époque, on commence un peu à faire nos affaires, et donc en retirant ma culotte, il voit
votre vie.
Et en fait, moi, que j'avais épilé de façon assez classique, j'avais simplement retiré ce qu'il y avait sur les côtés. Et donc, il regarde ça, il me dit, il s'arrête, il me dit, mais ça va pas être possible. Et là, je me suis dit, mais comment ça va pas être possible ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Moi, j'étais prête, là.
Qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais. Et non, en fait, oui, ça ne lui convenait pas. Je n'étais pas suffisamment épilée pour qu'on puisse aller plus loin. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a traumatisée énormément, hein, parce qu'après, je me suis mise à m'épiler de façon très intense. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette histoire-là, je l'ai partagée avec beaucoup d'amis, et en fait, on est beaucoup à avoir eu cette phrase, à avoir entendu ce n'est pas possible.
Et heureusement, je crois que vous avez eu un autre petit copain qui vous a totalement décomplexé par la suite.
Ouais, c'est ça. J'ai effectivement eu quelqu'un de très bienveillant dans ma vie et qui m'a beaucoup poussée. Mais voilà, c'est aussi pour ça que c'est pas forcément une question d'individu, mais plutôt en fait de rapport sociétal dans lequel on baisse. Enfin, on. Dans lequel on baigne tous, pardon.
Docteur Néter, l'arrivée des poils quand on grandit, enfin même si je pense, même les petits bébés ont du duvet, on va dire, mais est-ce que c'est pas aussi un marqueur comme ça de j'ai des poils, je suis adulte ? Il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là ?
Mais bien entendu, les poils, c'est ce qu'on appelle un caractère sexuel secondaire. Ils commencent à apparaître vers 8 à 11 ans chez les filles, un petit peu plus tard chez les garçons. C'est sous la dépendance donc des hormones ovariennes et testiculaires. Et c'est au moment où l'hypothalamus et l'hypophyse vont commencer à fonctionner, vont sécréter des hormones qui vont commander le développement des organes sexuels. À ce moment-là, les hormones vont être sécrétées et le poil est sous la dépendance de la testostérone, qui est l'hormone mâle, mais pas que, parce que les femmes également ont de la testostérone. Voilà.
Donc c'est un caractère. Ont beaucoup, elles sont plus poilues que les autres.
Alors, ce n'est pas uniquement le niveau sanguin de la testostérone qui est important, parce qu'il y a également sur les cellules des marqueurs, des récepteurs à la testostérone, et on peut avoir beaucoup de récepteurs à la testostérone et donc être poilu sans avoir une pathologie avec dans le sang une augmentation de la testostérone.
Alors Virginie, la pilosité dépend, on l'a vu, des modes, et justement les modes changent. La preuve avec la barbe, depuis les années 2000, c'est le grand retour de la barbe chez les hommes. Comment on explique qu'elle soit devenue si branchée de nouveau ?
C'est devenu branché parce que c'était une réaction à ce qui était branché auparavant. Souvenez-vous des hommes des années 80, ils portaient des costumes, ils conduisaient des grosses cylindrées et ils étaient impeccablement rasés.
Ils étaient glabres.
Exactement. C'est le beau gosse des années 80, 90. Et à partir des années 2000, on a une partie de la population, ce qu'on appelait les hipsters, ceux qui ont refusé les bullshit jobs, qui ont voulu se reconnecter avec un art de vivre un peu plus slowly, plus doux, qui ont ouvert en fait des cafés bio.
C'est ça. Et des chambres d'hôtes à la campagne.
Voilà, exactement. Eh bien, ces hommes-là ont été piqués des codes ailleurs que dans la masculinité de leur père. Et donc, ils ont été renoués avec la barbe qui n'était plus du tout portée. C'était donc une réaction au monde de l'ultra-consommation, au monde de l'ultra-performance. Et ils ont fait de cette barbe un nouvel attribut de mode. On a vu des barbières ouvrir à Paris.
Beaucoup. Pas qu'à Paris, partout en France.
Vraiment. Et avec des barbes qui, finalement, demandent un entretien qui est beaucoup plus important que de se raser chaque matin.
Ça serait pas mal, Aline Rapon, qu'il y ait des chatières aussi, après les barbiers.
Ah mais c'est le concept de ma BD, relançons.
Mais pourquoi pas.
On cherche des investisseurs.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Les poils, alors, on les garde ou on les garde pas ? C'est notre sujet du jour. Et pour y réfléchir et surtout nous éclairer sur ce sujet, elles sont toujours avec nous ce matin, le docteur Laurence Néter, dermatologue à Paris, Adeline Rapon, photographe et co-autrice du livre Ébouriffante aux éditions du Nouvel Attila, et puis Virginie Giraud, docteur en histoire et auteur des Ambitieuses, 40 femmes qui ont marqué l'histoire par leur volonté d'exister, paru chez M6 Éditions. Alors Virginie, justement, depuis toujours, l'épilation de nos poils est un sujet dans nos civilisations. Les premières traces dans l'histoire de l'épilation, ça remonte au rasoir, mais c'était quand en fait ?
Voilà, le rasoir, ça existe depuis qu'on s'est en fait en silex. Hein, donc vous voyez ça remonte à très longtemps. Et on trouve de très beaux rasoirs sur les sites archéologiques en bronze, donc dès le 2e millénaire avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, c'est quand même une très longue histoire. On les utilise depuis longtemps. Mais parfois, on cherche des techniques qui marchent un peu plus longtemps que simplement couper le poil. Donc par exemple, on sait que les Romaines faisaient brûler des coquilles de noix chauffées à blanc pour se brûler les poils. Donc avec un risque maximum de se brûler la peau.
Ça devait faire horriblement mal.
Mais il faut souffrir pour être belle. Vous connaissez pas ce dicton de la petite sirène ?
C'est affreux.
On va revenir en 2022 avec vous, docteur Néter. Aujourd'hui, on ne fait plus brûler les poils. Il y a d'autres choses. Qu'est-ce que vous préférez, vous, justement ? Alors là, pour l'instant, je veux dire en termes d'épilation, pas définitive, hein, d'épilation, on va dire hebdomadaire ou mensuelle. Qu'est-ce que les dermatos préconisent ? Vous préférez quoi ? Le rasoir, la crème, la cire
Je laisse tout à fait le choix aux patientes de s'épiler comme elles le veulent.
Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui respecte plus la peau ? C'est ça que je veux dire.
Il y a des choses qu'il faut ne pas faire. Il ne faut pas épiler des duvets, par exemple, parce que quand on épile des duvets, on a tendance à favoriser leur transformation en poils, ce qu'on appelle terminaux, en poils adultes. Mmh. Il faut également éviter de s'épiler sur le visage quand on est une femme, parce qu'on a tendance à vouloir mettre un coup de cire ou un coup de rasoir.
Et justement, pour la moustache, par exemple ?
Pour la moustache, ou même sur les joues. Il y a des femmes qui ont des poils sur les joues, ça, il faut vraiment éviter.
On fait quoi, alors ?
Alors, aujourd'hui, on a le moyen d'épiler définitivement les poils, c'est le laser. Alors, ce qu'il faut comprendre avec le laser, c'est qu'il marche d'autant mieux que le poil est épais sur une peau
claire.
Mmh. Exactement. Donc, avant, on disait aux femmes, ne vous rasez pas parce que vous allez épaissir le poil, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai. Hein. On n'épaissit pas un poil terminal, mais on rend sa section plus tranchante. D'accord. Aujourd'hui, on s'en fiche complètement parce que les trois quarts des femmes vont finir par se faire épiler définitivement au laser. Donc, aux jeunes filles vers 15 ans qui sont vraiment très gênées par leur poil, je leur dis... utiliser le rasoir, en tout cas sur les zones où on est sûr de vous épiler très facilement au laser, c'est-à-dire les demi-jambes, maillot, aisselle. Ça n'a pas d'intérêt de d'épiler à la cire puisque vous finirez par le faire au laser.
Et pourquoi pas la cire alors ?
La cire, c'est possible.
Mais ça fait plus mal.
Alors la cire, c'est possible, mais à 15 ans, c'est quand même un petit peu...
J'ai des souvenirs affreux.
Puis les filles ne savent pas, le soir où elles ont une soirée, c'est la
c'est l'épilateur électrique.
L'épilateur électrique. C'est horrible. Horreur, c'est très très douloureux.
Je me rappelle,
c'est traumatisant.
Toujours la première fois que je l'ai utilisé.
Aussi,
horrible.
Horrible. Hein. C'était affreux.
C'est la plus grosse douleur que j'avais jamais ressentie.
Même moi aussi. Mais... oh là là.
Il y a plein de petits nerfs autour des poils.
C'est horrible.
Et c'est ça qui fait mal.
Ah. On a une question de Sandrine près de Poitiers sur Facebook pour vous, docteur Néter. Il paraît que plus on s'épile et moins on a de poils. Alors est-ce que c'est vrai ça ? Et au bout de combien d'années, il pourrait disparaître complètement si c'est le cas ?
Alors, les cellules sont effectivement assez fragiles et plus on les traumatise, moins elles vont bien se renouveler. Simplement, il faut quand même des années d'épilation à la cire pour voir sa pilosité diminuer.
Mais quand on vieillit quand même, non ? Vous trouvez pas
alors,
qu'on
a moins en moins de poils, sans compter quand même les poils de la ménopause, parce qu'il y a à nouveau une petite stimulation. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, on a de moins en moins de poils.
C'est quoi le poil de la ménopause ?
Les poils qui sont stimulés, si vous voulez, par cette augmentation relative de la testostérone due au fait que les hormones féminines diminuent à la ménopause.
C'est le petit poil sous le menton,
exactement.
Un peu de rhume.
Mais mis à part ces poils-là, c'est vrai qu'en vieillissant, on a de moins en moins de poils.
Ah, Mélanie, vous avez
pas
un poil.
Pas du tout. Vous en êtes très loin, Mélanie.
Alors, Adeline répond, pourquoi ce rapport à l'épilation, pourquoi c'est un sujet si particulier aujourd'hui en France ? Qu'est-ce qui manque peut-être dans notre société pour que ce soit plus un sujet tabou, en fait ?
Je pense que c'est vraiment juste démocratiser, en tout cas, ça. Démocratiser le fait de voir des femmes avec des poils sous les aisselles, avec des poils au niveau du sexe sur les jambes. C'est assez marrant parce que je regardais il n'y a pas longtemps le film de 37.2 sur 37.2 à l'ombre, où Béatrice Dalle, en fait, elle a justement la pilosité sous les bras, ça se voit, elle est belle quand même, ça ne change rien. Et en fait, c'est ce genre de figure-là qui, moi, en tout cas, m'ont énormément aidée à me sentir bien dans mon corps, mais c'est encore un problème aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas capable de, aujourd'hui de laisser mes jambes au naturel l'été.
J'allais vous dire, il me semble que vous êtes épilée quand même, non
ouais. Malheureusement, en fait, sur je rase jambes. Les jambes parce que en fait, j'ai du mal avec le regard extérieur, effectivement. Sous les bras, je le supporte très bien parce que je trouve qu'il y a un côté un peu rock qui me fait marrer et que, en fait, ça fait des années que je n'y ai pas touché. Mais effectivement, j'ai encore du mal avec
bon, on va vous aider à passer le cap.
Ouais. Alors, docteur Netter, on a une question pour vous hein, sur Instagram. Ludovica qui vous demande, on voit des machines à lumière pulsée dans le commerce pour se débarrasser tout seul de nos poils. Qu'est-ce que ça vaut, ça?
La technique de référence, c'est le laser. C'est une différence physique. Le laser, c'est une source d'énergie lumineuse qui va une seule longueur d'onde, qui va être absorbée par la mélanine du poil, transformée en chaleur. Ça va faire chauffer le bulbe et donc ça va le détruire. La lumière pulsée, ça marche si la lumière pulsée est de très bonne qualité, donc une lumière pulsée médicale. Le petit appareil que vous avez dans le commerce, ça va affiner le poil et ça va être très difficile ensuite, même pour un professionnel, de l'enlever avec son laser. Ce qu'il faut vraiment dire également, parce qu'on oublie quand même, c'est que le laser, c'est une technique médicale. On peut brûler avec le laser et donc on est obligatoirement médecin pour utiliser un laser. Aujourd'hui, vous avez des centres qui s'ouvrent partout, qui utilisent des
salons
machines
d'esthétique, en fait, hein, c'est
exactement.
Ça, mais c'est dangereux, vous dites.
Voilà. La lumière pulsée, par contre, les esthéticiennes peuvent l'utiliser, mais c'est moins efficace. De temps en temps, on arrive, si toutes les conditions sont réunies, poils épais, peau blanche, on
ça
y arrive
marcher.
À la langue. Absolument.
Virginie Giraud, les poils étaient déjà un marqueur fort dans les civilisations antérieures, par exemple pour les Romains de l'Antiquité. Plus la peau était lisse, plus vous étiez pur, supérieur. Il y avait déjà un truc comme aujourd'hui, finalement.
Oui, tout à fait. Bah, les Romains sont nos grands-parents, hein, d'une certaine manière, donc on leur doit beaucoup. Et les femmes passaient beaucoup, beaucoup de temps à s'épiler, évidemment pour plaire aux hommes, hein, on ne va pas se leurrer, parce que ça évoquait la jeunesse, la propreté, la pureté. Et donc ça plaisait aux hommes. Par contre, on considérait que les femmes qui étaient ménopausées n'avaient plus à s'épiler, et surtout pas le sexe. D'ailleurs, il y a un poème d'un satiriste qui s'appelle Martial, qui est terrible, et qui dit à une femme ménopausée, arrête de t'épiler le sexe, on n'arrache pas sa barbe au vieux lion.
C'est terrible, celle-là.
Pour dire, en gros, tu n'es plus bonne, tu ne suscites plus le désir, garde donc tes poils, c'est pas grave. Et d'un autre côté, il y a des hommes comme Jules César qui est quand même un parangon de virilité, hein, parce qu'en termes de meneur d'hommes, on n'a pas fait mieux depuis 2000 ans, à part Napoléon.
Il s'épilait, Jules César ?
Il adorait s'épiler les jambes et ça posait pas de problème pour diriger des légions romaines. Donc vous voyez, on a plein de possibilités différentes.
Et Virginie, pourquoi les femmes, elles s'épilaient aussi la moitié du...
Vous avez du front,
à la fin du Moyen-Âge, on considérait qu'un grand front, c'était pareil, un symbole de jeunesse. Alors les femmes s'épilaient 5 cm de cheveux pour se donner une apparence plus juvénile. Alors nous, on trouve ça horrible aujourd'hui, mais à l'époque, on trouvait ça super sexy.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être. C'est tous les matins de 11h à midi. À présent, on va lancer comme tous les jours notre séquence tendance. Et donc dans ce studio, il y a déjà Vincent Busset. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors on va redécorer nos murs aujourd'hui, c'est bien ça, mais
oui.
Avec quoi par exemple?
Avec des cadres bien sûr, mais on va voir qu'il existe également plein d'autres choses intéressantes pour décorer ces murs.
Bon, bah, très bien, vous restez avec nous Vincent, car pour le moment c'est Inès Cordourly qu'on va écouter. Bonjour Inès.
Bonjour.
Alors vous avez testé pour nous un simulateur de vol. Expliquez-nous tout de cette nouvelle tendance qui attire de plus en plus la curiosité des Français.
Alors, est-ce que vous avez peur, vous, en avion?
Un petit peu au décollage, moi, en général.
Ah, c'est vrai?
Ou même à l'atterrissage, enfin, un peu comme
enfin, tout le temps,
en fait.
Un chouïa.
Tout le temps, tout le temps.
Alors, vous faites partie des 56% des Français qui ont peur de prendre l'avion. Cette peur a un nom, c'est l'aérophobie. Si le fait de vous imaginer dans les airs vous plonge dans une angoisse et que vous avez toujours une excuse pour ne pas prendre l'avion, alors, chers auditeurs, j'ai la solution pour vous, un simulateur de vol. Je me suis rendue chez Aviasim dans le 13e arrondissement de Paris. C'est le leader des centres de simulation de vol en France et je peux vous dire que c'était très impressionnant.
Mais comment ça se passe, Inès? J'imagine que c'est comme une thérapie, il faut beaucoup de séances pour que ça fasse effet ou au bout d'une, on est trop...
Eh bien, pas du tout. 3 séances suffisent. Il faut prévoir 2 heures à chaque fois, donc il faut réserver quand même une après-midi. La première fois, c'est plutôt théorique. Hein. On cherche à savoir ce qui vous fait concrètement peur dans l'avion? Est-ce que c'est le vide, plutôt le décollage ou encore les turbulences? Et après, on va pouvoir choisir le meilleur pilote selon votre angoisse. Il y en a 7 et chacun a sa spécialité.
Et la deuxième séance, Inès, ça y est, on entre dans l'avion, hein, je crois.
Ça y est, on embarque. Alors moi, j'ai fait Paris-Lyon pour premier voyage.
C'est pas long.
Mais il y a des vols aussi un peu plus longs. Alors on est donc dans le cockpit et c'est l'avion c'est le pilote qui prend les commandes. Donc nous, on observe uniquement. Et la dernière séance, ça y est, on prend son courage à deux mains et c'est le cas de le dire car c'est à nous de piloter l'avion.
Ah, génial.
Waouh, on y est là.
Et rien à signaler pendant le vol? Enfin, tout se passe bien, pas de turbulence? Expliquez-nous.
Alors, tout est fait pour nous déstabiliser. Par exemple, une panne de moteur pour montrer aux futurs passagers que les pilotes arrivent toujours à gérer la situation. Je vous propose de vivre l'expérience avec moi aux côtés de Thomas, qui était mon pilote pour un vol Paris-Barcelone, et Pauline, la stagiaire, qui souffrait d'une peur bleue de l'avion.
Là, normalement, c'est le moment où vous dites, ça y est, le décollage est terminé. On va pouvoir respirer un petit peu, être plus relax.
Vu que j'ai un peu le vertige, c'est ça qui est un peu impressionnant dans un avion en règle générale. Et j'avoue que je retrouve un peu les sensations que j'ai quand je suis en avion ou en hauteur. Et en plus, là, on est au-dessus de l'eau, donc c'est d'autant plus impressionnant. Le fait d'avoir passé la phase de décollage, je trouve qu'on est déjà un peu plus rassuré.
Problème de moteur.
Voilà, donc là c'est un problème effectivement de moteur et de basse pression d'huile. Le moteur va s'arrêter.
Ok.
À votre avis, on s'est crashé ou pas?
J'espère pas.
Bah non,
mais
vous seriez pas là.
Franchement, ça fait peur un peu, je trouve.
Bah ouais, tous ces bruits là, c'est impressionnant. Alors, vous êtes crashé ou pas, Inès?
Eh ben, si c'était moi aux commandes, peut-être que oui, mais vu que c'était Thomas, non. Alors, il nous a montré qu'un avion peut parfaitement voler avec un seul moteur et a rassuré Pauline tout au long de la séance. Alors, elle ne prenait plus l'avion suite à des turbulences sur un long vol. Mais est-ce qu'après ce stage, elle est prête à s'envoler? On écoute sa réponse.
Je vais pas dire que je suis encore complètement sereine. Disons que je vais peut-être moins me projeter dans des choses négatives et je vais peut-être plus faire confiance à la machine, au pilote, et attendre que ça se passe et ne pas créer de problèmes, puisqu'en plus apparemment il y a des solutions à peu près pour tous les problèmes. Je vais essayer de voyager plus sereinement.
Et Pauline n'est pas la seule. Le docteur Éric Malbeau, psychiatre au CHU de la Conception de Marseille, a utilisé la réalité virtuelle sur plus de 1000 patients. Il nous raconte l'histoire de l'un d'entre eux. On l'écoute.
C'était une personne en fait qui était extrêmement anxieuse, qui prenait plus l'avion depuis 30 ans. Elle angoissait rien que de voir les informations à la télévision sur les avions qui s'étaient écrasés. Le problème, c'est que sa fille était en Guadeloupe. Elle devait à un moment donné prendre l'avion pour la voir. Donc elle était torturée entre son désir de voir sa fille et en même temps l'angoisse terrible de prendre l'avion. Et donc c'est l'avantage de la réalité virtuelle, c'est qu'elle permet de faire une exposition très douce et très progressive. Il a fallu à peu près 12 séances pour l'aider. Eh bien, à la fin, elle a pu s'exposer à la réalité et elle a fini par prendre l'avion pour aller en Guadeloupe retrouver sa fille.
Et pour toutes les personnes qui ont la phobie de prendre l'avion ou toute autre phobie, le docteur Malbeau vous suggère le site phobie.com sur lequel 2000 médecins et thérapeutes pratiquent la réalité virtuelle. Et si vous aimez la lecture, il y a le livre Psychothérapie et réalité virtuelle aux éditions Odile Jacob pour mieux comprendre les méthodes utilisées pour vous aider enfin à vaincre votre phobie.
Mais Inès, attention, parce que ça, c'est seulement pour les personnes qui ont peur de l'avion, parce que moi, par exemple, j'ai pas peur, j'adore voyager, mais l'expérience du simulateur, ça me tente, on peut juste y aller pour le plaisir?
Alors oui, c'est ouvert à tous, il y a plusieurs forfaits qui existent avec des prix assez abordables quand même, ça va de 100 à 200 euros le stage selon la formule.
Et on peut y aller avec les petits ou pas?
Oui, c'est accessible vraiment à tous, même pour les personnes sourdes ou malentendantes, et Aviasim propose même le BIA, c'est le brevet d'initiation aéronautique aux ados de 13 à 17 ans durant chaque vacances scolaires. Alors ça se passe sur 3 journées complètes de 10h à 17h, et les prochaines séances débutent le 12 juillet.
Mais il existe d'autres endroits en France pour tester un simulateur de vol? Parce que c'est pas juste à Paris quand même.
Alors près de Paris, vous en avez encore 2 autres à Orly et à Vanves, et 14 autres centres dans les 4 coins de la France, tels que Bordeaux, Lille, Nantes, Strasbourg, Lyon ou encore Toulouse. Alors je vous invite à consulter le site aviasim.com pour trouver le centre le plus proche de chez vous.
Eh bien merci beaucoup Inès.
Aviasim, il faut juste
l'épeler. A-V-I-A-S-I. Merci beaucoup Inès pour ce reportage presque dans les airs. Et justement pour ceux qui auraient encore envie de s'envoyer en l'air, je ne peux que vous recommander le film Top Gun Maverick, un film européen toujours avec Tom Cruise qui sort mercredi prochain. Et bien maintenant on va passer à la chronique déco de notre Tom Cruise à nous, c'est Vincent Busset. Alors Vincent, on va parler décoration murale avec vous et je crois que vous avez trouvé pas mal de nouveautés dans votre besace.
Tout à fait, alors la déco murale c'est simple, si t'as pas un Picasso dans ton salon avant 50 ans, t'as raté ta vie.
On est tous des losers, alors.
Plus sérieusement, on va voir qu'il existe plein de choses pour décorer ses murs et qu'on n'est pas obligé de rester dans le cadre du cadre, justement. Il y a plein de choses qui existent, des objets. Avant de voir les petits objets que je vous ai ramenés, on va voir quand même où placer la décoration murale, parce qu'on a tendance quand même à en mettre absolument partout. La nature a horreur du vide, mais chez soi, c'est bien quand même de laisser respirer un petit peu et de sélectionner plutôt les pans de mur où c'est intéressant de placer la décoration. Et si vous ne savez pas trop lesquels choisir, eh bien, choisissez des endroits où ça a un vrai intérêt. Donc typiquement, un espace canapé où on peut faire un mur de cadre au-dessus. Si on a un bureau, on peut placer des étagères au-dessus pour avoir un petit peu de rangement. Au niveau d'une tête de lit, c'est le coin important de la chambre, on peut mettre un mur de papier peint. Donc choisissez vraiment les pans de mur les plus intéressants pour éviter d'en mettre partout et ne pas surcharger la pièce.
Bon, et Vincent va commencer par un truc classique, les cadres. Qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Effectivement, c'est la solution de facilité. Tout le monde en a chez soi. Moi, ce que je vous dirais simplement, c'est d'éviter de tout acheter d'un coup. La décoration, ce n'est pas quelque chose de figé dans le temps. On va accumuler au fur et à mesure des beaux objets et des beaux cadres. Et surtout, éviter d'avoir les cadres de Monsieur Tout-le-Monde en allant chez Ikea, en achetant toutes les affiches. Et privilégier plutôt des choses qui sont en rapport avec votre vie et qui vous évoquent quelque chose. Ça peut être une toile de brocanteur, ça peut être une affiche d'un musée qui nous a plu, ça peut être un souvenir de vacances. Donc vraiment, choisissez des choses qui vous évoquent quelque chose. Et puis sur le marché du neuf, là, je vous ai quand même ramené quelque chose, c'est Image République. Merci. Donc Julia va nous montrer tout ça. Je ne sais pas si vous connaissez Image République, c'est assez connu. C'est très
bien. On mettra bien sûr sur les réseaux sociaux.
Exactement.
Hein. Donc, c'est très joli.
Il
hein.
y a un très bon rapport qualité-prix. On est entre 40 et 60 euros. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a déjà...
C'est beau Marseille, là,
oui,
l'affiche
c'est
avec
la cité
piscine.
Radieuse. On a déjà les passe-partout qui sont prévus, donc rien à voir avec Fort Boyard. C'est simplement le petit tour qui vous permet directement d'encadrer cette affiche. Et puis, on a des formats standards. Donc, on n'est pas obligé d'avoir un cadre sur mesure ensuite. Il suffit d'acheter un petit cadre chez Leroy Merlin. Ça fonctionne très bien. C'est français. C'est fait à Paris dans des ateliers parisiens. Et
très
j'aime
beau.
Beaucoup.
C'est, voilà. C'est chouette. Hein. Et si on veut plutôt mettre des tableaux et qu'on n'a pas hérité d'un Matisse, on fait comment ?
Alors là, moi, j'aime bien aller chez les brocanteurs, par exemple. Ou si vous aimez les photos aussi, on peut trouver des petits artistes qui exposent et qui sont pas. Enfin, ça reste des prix raisonnables. Donc, on va être à plusieurs centaines d'euros, certes, mais on a des objets et des cadres uniques. Et ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui nous plaît chez soi et qu'on ne retrouvera pas chez son voisin.
Et si on veut encore aller plus loin dans la déco ?
Alors, si on va aller plus loin dans la déco et qu'on veut sortir de ces fameux cadres et de ces fameuses affiches, il y a notamment ce que j'aime bien, c'est... Alors oui, on peut parler...
Ou du papier peint.
On va commencer par le papier peint. Donc le papier peint est notamment cette petite frise de chez Maison Sarah Lavoine qui coûte 90 euros et qui permet en un clin d'œil de changer sa pièce. Il suffit de placer cette petite bande à mi-hauteur à peu près dans sa pièce.
Vous pouvez venir l'installer chez moi ?
Ouais, c'est très simple, hein, vraiment.
Il moi, suffit... je suis pas douée, hein. C'est vraiment facile.
Ce qui est bien, c'est que moi, là, je trouve que c'est intéressant pour les locataires, notamment quand on a envie de changer de décoration et qu'on n'a pas envie de faire des travaux qu'on n'a pas un budget énorme, on peut mettre cette frise et je vous assure que ça change complètement la pièce.
C'est un petit rouleau, ça doit faire quoi, 15 cm de haut,
c'est ça, 5 mètres de long.
5 mètres de long, ouais. Un petit rouleau de papier peint.
Exactement.
Et c'est pas adhésif, hein, par
alors
contre.
Non, malheureusement, c'est pas adhésif, on peut pas le réutiliser. Donc c'est pose unique et après quand on l'enlève, c'est perdu.
Là, c'est les bandes de couleurs. Ouais,
exactement,
là, c'est
il y a
noir,
plusieurs
Bordeaux,
couleurs qui existent.
Blanc,
les couleurs typiques de chez Maison Sarah Lavoine.
Et ça, sur un mur blanc, par exemple, c'est magnifique.
Oui, et ce qui est bien, ça permet aussi de corriger les défauts d'architecture. Si on a, par exemple, un couloir qui est étroit et qui est très haut de plafond, ça permet de casser en deux et ça rétablit un petit peu l'équilibre. Et puis quand on n'a pas la chance d'avoir des murs avec des moulures, ça permet de recréer visuellement un sentiment de moulure de stylosmania, par exemple.
En haut du mur, plutôt.
Non, à mi-hauteur.
À mi-hauteur. Oui.
Et ce qu'on appelle les simèses dans le terme technique.
Et on peut le mettre dans l'autre sens si on veut aussi. Non,
oui,
ça
alors,
pas d'intérêt. C'est moche.
Non.
Merci de votre intervention, Mélanie. Et ces petits hérissons,
alors,
ça, c'est
oui,
quoi ?
C'est une marque danoise.
Un oursin, un peu.
Qui est très peu connue, qui s'appelle Mojo. C'est la collection Stardust que j'aime beaucoup. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs formats qui existent. Et on peut les composer vraiment. Comme
c'est
ça nous
beau.
Plaît. On peut en mettre 3, 4, 5.
Beau, hein.
Ça varie entre 40 et 50 euros. Et,
c'est très joli.
Ce que j'aime bien, c'est que, alors, de la même manière que les petits objets que je vous ai ramenés, donc ça, c'est abstract de chez Habitat.
Alors, quand ça, on, c'est quoi ça,
alors,
c'est
pareil,
comme une
décoration murale. Et ce qui est intéressant voilà, avec ces deux produits, c'est que ça donne vraiment une touche graphique. Et effectivement, quand on a la tête dessus, on se dit bof. Mais quand c'est mis au mur et qu'on a suffisamment de recul, ça
il
donne.
Il faut
vraiment...
décrire hein, pour nos auditeurs ouais. qui ne voient pas. Et ce sont des fils, enfin, moi, je dirais des fils métalliques.
Des fils métalliques, c'est ça.
Voilà.
Et ça donne
quelque forme un peu géométrique.
Exactement,
hein,
et comme c'est noir, ça donne vraiment une touche graphique intéressante sur le mur, et c'est en relief en 3D, donc ça meuble bien au niveau de son mur.
Et ça coûte pas très cher.
Non, c'est 80 euros l'ensemble, et puis ce qui est bien, c'est qu'encore
moi,
une
fois...
Moi, je
peux vous fabriquer le même. Hein.
Non, mais on n'est pas obligé de tous les mettre, on bien les sûr. Compose vraiment selon son envie, c'est ça que j'aime bien.
Et moi qui aime bien les miroirs, qu'est-ce que vous me conseillez ?
Alors, les miroirs, il y a une gamme complète que j'aime bien chez Maison Sarah Lavoine, qui est un petit peu haute en prix, mais il y a MPM qui propose des choses similaires et qui sont plus accessibles, et ce qui est bien avec les miroirs, c'est que ça reflète la lumière et ça peut peut agrandir l'espace dans une pièce. Une autre question.
Vous pensez qu'il faut en mettre plusieurs? Maintenant, c'est la mode, j'ai l'impression, des petits miroirs qu'on assemble.
Oui. Les miroirs de sorcières, notamment, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des miroirs un petit peu déformants. C'est très joli et j'aime bien, effectivement, sur les miroirs ronds, en mettre 2-3. Je trouve ça intéressant. Ouais, c'est pas mal.
Eh bien, merci beaucoup, Vincent.
De rien,
Mélanie.
Avec plaisir.
Vous allez faire quoi sur vos murs?
Moi, j'ai déjà pas mal de choses. Donc, il y a des murs où il y a des trucs, d'autres où il n'y en a pas. J'ai un miroir, grand miroir doré là, que j'ai acheté qui est très joli.
Ah, un vieux miroir, ça, c'est très joli aussi.
Sur une cheminée, voilà.
Sur les cheminées, c'est parfait. Ouais. Et les miroirs anciens, ça fonctionne très bien.
Allez, merci beaucoup, Vincent, pour toutes ces inspirations déco. Voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. On sera bien entendu de retour lundi dès 11h. Julien, on va s'intéresser à quoi lundi?
Eh bien, lundi, on va parler philo, comme les futurs bacheliers. On verra que tout est philo dans notre vie pour atteindre le bonheur, pour notre développement personnel et même pour notre santé. L'art de philosopher peut nous aider. On vous expliquera tout cela et vous verrez que, contrairement à l'épreuve du bac, avec nous, ce sera très simple.